Amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans notre émission hebdomadaire sur les Pères de l'Église. Nous reprenons notre commentaire de la seconde aux Corinthiens. Nous sommes au milieu de la 11e homélie, exactement au verset 17 du chapitre 5, en sorte qu'il s'il y a dans le Christ une nouvelle création. En sorte que s'il y a dans le Christ une nouvelle création, c'est l'amour de Dieu qui doit d'abord nous exciter à la vertu, mais ensuite l'apôtre nous y porte par les choses elles-mêmes. Et c'est pourquoi il ajoute « s'il est dans le Christ une création nouvelle ». Celui qui embrasse la foi de l'Évangile est pour ainsi dire créé une seconde fois. L'Esprit-Saint lui a donné une seconde fois la naissance. Nous devons donc vivre pour Jésus-Christ, non seulement parce que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, ou parce qu'il est mort pour nous, ou parce qu'il est ressuscité les prémices du genre humain, mais aussi parce que nous sommes entrés dans une vie nouvelle. Voyez que de motifs pour nous exciter à tenir une conduite vertueuse. C'est pourquoi l'apôtre se sert d'une expression fort matérielle pour rendre cette transformation, afin que nous en sentions mieux l'importance. Il va plus loin et nous montre en quoi consiste cette création nouvelle. Les choses anciennes ont passé, dit-il, voilà que tout a été renouvelé. Quelles sont ces choses anciennes ? Les péchés, les impiétés, ou bien les cérémonies judaïques, ou bien les deux ensemble. Voilà que tout a été renouvelé, or tout vient de Dieu. Verset 18. Rien ne vient de nous-mêmes. Le pardon de nos fautes, notre adoption, notre glorification, nous tenons tout de sa munificence. À l'avenir, l'apôtre joint le présent pour les exciter encore davantage. Voyez, en effet. Il a dit que nous devons ressusciter, entrer dans une vie éternelle, régner éternellement avec Dieu. Mais le présent aura plus d'influence que l'avenir sur ceux qui n'ont pas une foi bien ferme dans les biens futurs. Et c'est pourquoi il leur rappelle les bienfaits qu'ils ont reçus et l'état où ils se trouvaient quand Dieu les en a comblés. En quel état se trouvaient-ils donc ? Ils étaient tous morts. Tous sont morts, dit-il, et le Christ est mort pour tous, tant il les aimait tous. Tous étaient courbés sous la vétusté des vices. Mais tout a été renouvelé, l'âme qui a été purifiée, le corps, la manière d'adorer Dieu, les promesses, le testament, la table, les vêtements, tout en un mot. Au lieu de la Jérusalem d'ici-bas, nous avons reçu la Jérusalem céleste. Au lieu d'un temple matériel, un temple spirituel. Au lieu des tables de pierre, des tables de chair. Au lieu de la circoncision, le baptême. Au lieu de la manne, le corps du Seigneur. Au lieu de l'eau du rocher, le sang qui coule du côté de Jésus. Nous avons reçu la croix au lieu de la verge de Moïse et d'Aaron. Le royaume des cieux au lieu de la terre promise, un seul pontife au lieu de ces milliers de prêtres, l'agneau spirituel au lieu de cet agneau privé de raison. C'est tout plein de ces pensées que l'apôtre disait « Tout a été renouvelé et tout nous vient de Dieu par le Christ. » C'est un présent de la divine munificence. Aussi ajoute-t-il « qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. » De là, en effet, nous viennent tous les biens. Celui qui nous a rendus les amis de Dieu nous a valu tous les autres bienfaits que Dieu nous a prodigués. Il n'a point voulu que nous fussions encore ennemis de Dieu au moment où il nous faisait ses largesses. Il a commencé par nous rétablir dans son amitié. En disant que le Christ a été pour nous l'auteur de la réconciliation, je veux parler aussi du Père, et en disant que ses bienfaits nous viennent du Père, j'entends aussi parler du Fils, car c'est par lui que tout a été fait. D'où il suit qu'il est lui-même aussi l'auteur de ses bienfaits. Ce n'est pas nous qui sommes accourus vers lui, c'est lui qui nous a appelés. Et comment nous a-t-il appelés ? Par la mort du Christ, qui nous a donné un ministère de réconciliation. Ici, il montre encore la dignité des apôtres, la grandeur de leur mission, l'amour excessif de Dieu envers nous. Les hommes ne voulurent pas entendre la voix de l'ambassadeur céleste, et cependant Dieu ne s'irrita point, ne les abandonna point, il redoubla d'instance auprès d'eux, et par lui-même et par ses envoyés. Comment avoir assez d'admiration pour une telle sollicitude ? Le Fils de Dieu venu sur la terre pour nous réconcilier avec son Père, le vrai Fils de Dieu, son Fils unique, est mis à mort. Et cependant, le Père ne se détourne point des criminels. Il ne dit point « J'ai envoyé mon Fils en ambassade, non seulement ils n'ont pas voulu l'entendre, mais ils l'ont fait mourir, ils l'ont crucifié. Il est bien juste que je les abandonne. » Il agit tout autrement. Et quand Jésus-Christ a quitté la terre, c'est à nous-mêmes qu'il confie le ministère de la réconciliation. Et il nous a donné, dit saint Paul, le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant point leurs péchés. Quel amour ! Ne dépasse-t-il point tout ce qu'on pourrait dire, tout ce qu'on pourrait s'imaginer ? Quel était l'offensé ? Dieu lui-même. Qui se présenta le premier pour opérer la réconciliation ? Dieu encore. Mais dites-vous, il a envoyé son Fils, il n'est pas venu lui-même. Il a envoyé son Fils, j'en conviens, mais le Fils n'était point seul à exhorter les hommes. Le Père les exhortait aussi avec lui et par lui. Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui. Dans le Christ, c'est-à-dire par le Christ. L'apôtre avait dit, il nous a donné un ministère de réconciliation. Il adoucit un peu sa pensée en disant, ne croyez pas que nous soyons à nous seuls chargés de cette mission. Nous ne sommes que des serviteurs. C'est Dieu qui a fait tout cela, c'est lui qui a réconcilié le monde par son Fils unique. Et comment ? Ce qu'il y a d'admirable, en effet, ce n'est pas seulement que le monde soit venu l'ami de Dieu, mais aussi la manière dont s'est opérée la réconciliation. Comment s'est-elle donc opérée ? Dieu a pardonné les péchés des hommes. L'amitié ne pouvait se contracter autrement. Aussi l'apôtre ajoute-t-il, sans tenir compte de leurs péchés. Ah, s'il eût voulu demander compte aux hommes de leurs fautes, nous étions tous perdus, car tous étaient morts. Mais ces fautes si nombreuses, il ne voulut pas en tirer vengeance. Il nous rendit au contraire ses bonnes grâces. Non seulement il nous pardonna nos péchés, mais il ne nous les imputa pas même. C'est ainsi que nous aussi nous devons pardonner à nos ennemis, si nous voulons obtenir de Dieu notre pardon. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ce n'est point pour une mission pénible que nous sommes venus, mais pour vous rendre l'amitié de Dieu. Ils n'ont pas voulu se rendre à mes paroles. Vous, ne cessez de les exhorter jusqu'à ce que vous les persuadiez. C'est pourquoi saint Paul ajoute, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et c'est Dieu qui exhorte par notre bouche. Nous vous en conjurons au nom de Jésus-Christ, réconciliez-vous avec Dieu. Verset 20. À quelle hauteur il porte cette mission dont il est chargé ? C'est le Christ lui-même qui supplie dans l'apôtre, et non seulement Jésus-Christ, mais Dieu le Père. Car voici le sens de ses paroles. Le Père a envoyé son Fils pour exhorter les hommes en son nom et pour remplir auprès d'eux les fonctions de l'ambassadeur. Les hommes l'ont fait mourir. Il a quitté ce monde et nous lui avons succédé dans sa mission. C'est donc en son nom et en celui de son Père que nous vous exhortons. Le Père aime le genre humain à ce point qu'il a livré son propre Fils, sachant bien que les hommes le feraient mourir et qu'il nous a fait ses apôtres à cause de vous. Ne vous imaginez donc point que c'est nous qui vous prions, c'est le Christ lui-même, c'est son Père qui vous prie par notre bouche. Est-il rien de comparable à une pareille bonté ? Ce Père dont on a payé les immenses bienfaits par tant d'outrages, non seulement ne se venge point, mais il donne son Fils pour nous réconcilier avec lui. Loin de vouloir se réconcilier, les hommes le font mourir. Il envoie d'autres ambassadeurs, et après les avoir envoyés, il se fait lui-même suppliant en leur personne. Et que demande-t-il ? Réconciliez-vous avec Dieu. Il ne dit pas « Réconciliez Dieu avec vous ». Ce n'est pas lui qui nous hait, c'est vous qui voulez être ses ennemis. Dieu éprouve-t-il jamais un sentiment de haine ? Et il discute la cause comme ferait un ambassadeur. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait pécher à cause de nous. Je ne rappelle point le passé, vos outrages envers moi, qui ne vous ont jamais fait de mal, mais bien fait si nombreux. Je ne vous dirai point que je vous ai point puni, que bien qu'outragé le premier, je suis cependant le premier à vous prier. Non, je ne veux rien rappeler de tout cela. Ne suffit-il pas du bienfait qu'il vous accorde aujourd'hui pour vous décider à une réconciliation ? Quel est-il donc ce bienfait ? Celui qui n'a point connu le péché pour vous, il l'a fait pécher. Verset 21. Ne vous aurait-il jamais accordé d'autre faveur ? N'était-ce pas une faveur immense que de livrer son Fils pour ceux qui l'avaient outragé ? Oui, il l'a donné, et ce n'est pas assez. Il a permis que ce Fils, l'innocence même, fût accablé d'outrage pour ceux-mêmes qui les lui infligeaient. Voyez donc que de bienfaits vous avez reçus. C'est chose admirable qu'un pécheur consente à mourir pour un autre, quel qu'il soit. Mais quand c'est un juste qui meurt, et qui meurt pour des pécheurs, et qui meurt comme un maudit, et pour nous mériter des faveurs auxquelles nous ne pouvions prétendre, afin que par lui nous devenions justes de la justice de Dieu, comment dire, comment peindre tant de générosité ? Celui qui était juste, dit l'apôtre, il l'a fait pécheur, afin de justifier les pécheurs. Et ce n'est pas même ainsi qu'il parle. Il tient un langage plus sublime encore. Ce n'est point l'état qu'il exprime, mais la qualité elle-même. Il ne dit pas « il l'a fait pécheur », mais « il l'a fait pécher ». Il ne dit pas « celui qui n'a point péché », mais « celui qui n'a point connu le péché ». Il ne dit pas « afin que nous devenions justes », mais « afin que nous devenions la justice et même la justice de Dieu ». C'est en effet la justice de Dieu quand elle ne vient point des œuvres, quand elle n'éternit d'aucune tâche, mais bien le fruit de la grâce qui fait disparaître toute imperfection. De telles expressions ne nous permettent point de nous enorgueillir, car c'est de Dieu que nous vient ce trésor, et nous apprenons ainsi à connaître la puissance de notre bienfaiteur. La loi et les œuvres produisaient simplement la justice, celle dont parle l'apôtre est la justice de Dieu. Pénétrons-nous bien de ces pensées, et qu'elles nous effraient plus que la vue même de l'enfer. Admirons de tels objets plus que le royaume des cieux, et regardons comme une non d'être châtié, mais de tomber dans le péché. Si Dieu ne nous châtiait pas lui-même, nous devrions nous imposer à nous-mêmes un châtiment après nous être montrés ingrats envers un tel bienfaiteur. Douzième homélie. Donc, en qualité d'auxiliaire, nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, car il dit « Je vous ai exaucé dans le temps favorable, et au jour du salut, je vous ai porté secours. » Si nous mettons nous-mêmes tant d'empressement à vous prêcher l'Évangile, c'est que nous songeons au peu de durée d'une vie si précieuse. Tel est le sens de ces paroles. En qualité d'auxiliaire, nous vous exhortons. C'est vous que nous aidons, plutôt que Dieu, dont nous sommes les ambassadeurs. Dieu ne manque de rien, le salut est tout à votre avantage. L'apôtre ne craint pas non plus de s'appeler l'auxiliaire du Seigneur, car ailleurs il dit « nous sommes les auxiliaires de Dieu ». C'est de cette manière qu'il contribue au salut des hommes. Nous vous exhortons. Dieu ne se contente pas d'une simple exhortation, mais il l'appuie des motifs les plus puissants. Il a donné son Fils l'innocence même, son Fils qui ne connaissait point le péché. Il l'a fait pécher pour nous qui étions pécheurs, afin de nous rendre justes à ses yeux. Et ce Jésus qui est Dieu, ce n'est pas lui qui devrait prier les hommes coupables de tant d'offenses, ce sont les hommes qui devraient le prier. Néanmoins, c'est lui qui les prie. Pour nous, quand nous vous prions, nous ne pouvons mettre en avant aucun droit, aucun bienfait, c'est au nom de Dieu qui vous a comblé de grâce que nous vous prions. Nous vous conjurons donc de recevoir le bienfait qui vous est offert, de ne pas refuser ce présent de la part de Dieu. Obéissez-nous donc et prenez garde de ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. En effet, l'apôtre ne veut pas qu'ils s'imaginent que la foi leur suffit pour être réconciliés. Il leur demande avec la foi le zèle dans leur conduite. Si après s'être vu délivré de ses péchés, après être devenu l'ami de Dieu, on se plonge de nouveau dans ses anciens désordres, on redevient ennemi de Dieu et la grâce de Dieu ne sert de rien désormais pour la vie éternelle. À quoi peut en effet servir la grâce du baptême si nous vivons dans l'impureté ? Au contraire, elle nous devient funeste, elle aggrave nos fautes, puisque nous retournons à nos péchés après avoir connu Jésus-Christ et après avoir joui de ses dons. Mais cette pensée, il ne l'exprime pas tout de suite, pour ne pas tenir un langage par trop rebutant. Il se borne à dire qu'il ne nous en revient aucun avantage. Il rappelle ensuite les paroles du prophète pour les exciter davantage à mettre la main à l'œuvre de leur salut. Car le prophète a dit « Je vous ai exaucé en temps favorable et je vous suis venu en aide au jour du salut. » Voici maintenant un temps favorable, voici maintenant des jours de salut. Un temps favorable, quel est-il donc ? Le temps du bienfait, de la grâce, temps où l'on ne demande pas compte des fautes commises, où l'on ne subit point de châtiment, mais où, après avoir été réconcilié avec Dieu, on jouit de biens sans nombre, la justice, la sainteté et tant d'autres faveurs. Quels travaux ne s'imposerait-on point pour trouver une occasion si précieuse ? Et voici que, sans effort de notre part, elle s'offre à nous et nous apporte la rémission de toutes nos fautes passées. C'est pourquoi l'apôtre appelle ce temps un temps favorable, car il accueille les plus criminels, et non seulement il les accueille, mais il les élève au sommet des honneurs. C'est ainsi que l'arrivée de l'empereur annonce non pas un jugement, mais des bienfaits et le salut. Voilà le temps que l'apôtre appelle un temps favorable. C'est le temps où nous sommes dans la carrière, où nous cultivons la vigne. C'est en un mot la 11e heure, comme dit l'Évangile. Courage, menons une vie toujours pure. Cela ne nous est point difficile. Combattre alors que Dieu répand de tels dons et de telles grâces, c'est être sûr de remporter aisément la victoire. Nous étions chargés de vices et Dieu nous a accueillis, nous a délivrés de ce fardeau. Et quand après cela, nous nous acquittions de nos devoirs, il ne nous accueillerait pas plus favorablement encore ? Ensuite, selon sa coutume, l'apôtre se propose comme modèle. Il ajoute « Nous ne scandalisons personne pour que notre ministère ne soit point déshonoré. » Verset 3. Il ne s'agit donc plus seulement d'un temps opportun, mais encore il leur met sous les yeux de grands exemples pour les porter au bien, et cela sans orgueil, sans arrogance. Il ne dit pas « Regardez-nous et voyez notre conduite », mais il se contente de prévenir le reproche, et c'est pour cette raison uniquement qu'il parle de lui. Voici deux caractères d'une vie sans tache. Nous ne donnons aucun scandale à personne. Il ne dit pas « aucun motif d'accusation », son expression a moins d'énergie, « aucun scandale ». C'est comme s'il disait « Nous ne donnons à personne l'occasion du moindre reproche et de la moindre plainte, de peur que notre ministère ne soit déshonoré, c'est-à-dire de peur qu'on y trouve quelque chose de répréhensible. » Il ne dit point non plus « de peur qu'on ne puisse l'accuser, mais de peur qu'on y surprenne la moindre faute, qu'on ne puisse y soupçonner quoi que ce soit. » Mais en toute chose, nous nous présentons comme les ministres de Dieu, verset 4. Ceci est d'un ordre bien plus élevé. Ce n'est certes pas la même chose d'être exempt de tout reproche et de se montrer aux yeux de tous comme les ministres de Dieu. Il y a bien plus de gloire à mériter des éloges qu'à se mettre simplement à l'abri des reproches. L'apôtre n'a point dit « nous apparaissons, mais nous nous présentons » ou « nous nous montrons ». Et comment se montrent-ils les ministres de Dieu ? Par une patience sans borne, dit-il. Vous avez dans cette parole le fondement de tous les biens. Aussi n'a-t-il pas dit patience, mais une grande patience pour faire voir l'étendue de cette vertu dans son âme. Ce serait peu de choses d'avoir supporté une ou deux tentations, mais les tentations qu'il a subies, il les représente tombant sur lui comme une grêle en disant « dans les tribulations, dans les nécessités ». Quel surcroît d'accablement quand les maux sont inévitables, quand il y a comme une nécessité de les souffrir quand on ne peut s'en délivrer. Dans les angoisses. Dans les angoisses de la faim et des autres besoins, ou simplement des tentations. Dans les coups, dans les prisons, dans les séditions. Verset 5. Chacun de ces maux n'est-il pas insupportable ? Ne suffit-il pas pour faire perdre patience d'être battu de verges, d'être enchaîné, d'être sans cesse persécuté sans jamais trouver de repos ? Car c'est ce que signifie ce mot dans les séditions. Quand tous ces maux viennent fondre ensemble sur quelqu'un, songez quelle fermeté d'âme il faut à cet homme. Voilà pour les afflictions qui lui viennent du dehors. Mais il souffre aussi de son plein gré. Dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la chasteté, verset 6. Il désigne par là ses fatigues qu'il éprouvait en courant ça et là, en gagnant sa vie de ses propres mains, en passant les nuits à enseigner et à travailler. Il nommait point le jeûne, quoique toutes ses fatigues valussent mille fois cette privation de nourriture. Par chasteté, il entend ou bien la pureté, ou bien une intention droite en toute chose, ou bien la prédication de l'Évangile faite gratuitement et sans recevoir aucune espèce de don. Dans la science, que veut dire cette expression ? Dans la science qui lui vient de Dieu, et c'est la vraie science. Ce n'est point la science de ces sages qui se glorifient d'une science toute profane et qui n'ont point celle-là. Dans la longanimité, dans la douceur. C'est encore une vertu d'une âme généreuse que de souffrir patiemment la colère et les injures d'autrui. Enfin, pour montrer le principe d'une telle patience, il ajoute « dans l'Esprit Saint ». C'est lui, en effet, qui est l'auteur de tous ses dons. Mais ce secours de l'Esprit Saint, il n'en parle qu'après avoir énuméré toutes ses vertus. Dans ses paroles, il me semble avoir voulu faire entendre autre chose encore. Quoi donc ? L'abondance avec laquelle il avait reçu la grâce de l'Esprit Saint. C'était une nouvelle preuve de sa mission que ses dons spirituels déposaient dans son âme. Sans doute, toutes ses vertus étaient l'effet de la grâce, mais cependant il les avait mérités en quelque façon par ses bonnes œuvres et par ses fatigues. Dire que saint Paul ait voulu montrer aussi qu'enrichi de tant de grâces, il en avait fait le meilleur usage, ce n'est pas s'éloigner de la pensée de l'apôtre, car ceux qui parmi les chrétiens avaient reçu le don des langues furent blâmés d'avoir conçu des sentiments d'orgueil. Il peut donc bien arriver qu'on ne fasse pas un bon usage des grâces de l'Esprit-Saint. Pour nous, dit l'apôtre, il n'en est pas ainsi. On ne peut rien nous reprocher dans l'usage que nous en avons fait, dans une charité toujours sincère. Telle était pour lui la cause de tous les biens. Voilà ce qui le rendait si parfait. C'est en vertu de cette charité de l'Esprit-Saint, par le secours de qui il pratiquait tant de bonnes œuvres, demeurait au-dedans de lui. Dans la parole de la vérité, verset 7. C'est une pensée qu'il exprime souvent. Nous avons annoncé la parole de Dieu sans aucun déguisement et sans jamais l'altérer. Par la vertu de Dieu. Comme toujours, il ne s'arroge rien à lui-même. C'est à Dieu qu'il rapporte toutes ses actions, tout ce qu'il fait d'éclatant. Il s'était donné des éloges en disant que sa vie n'avait cessé d'être à l'abri de tout reproche et qu'il avait toujours fait preuve d'une grande sagesse. Il attribue maintenant toutes ses vertus à l'Esprit-Saint et à Dieu. Ce n'était certes point des vertus ordinaires que celles dont il parle. Si en menant une vie paisible, il est difficile d'arriver à la vertu et de demeurer irréprochable, quelle difficulté n'était-ce pas que de jeter tant d'éclat par sa vertu au sein de pareilles afflictions ? Quelle force d'âme ne fallait-il point pour cela ? Et ce ne sont point les seules afflictions qu'il ait endurées. Il en endura beaucoup d'autres qu'il énumère plus loin. Ce qu'il y a de plus admirable ici, ce n'est pas de le voir toujours irrépréhensible au milieu de ses torrents de souffrance, ni de contempler sa patience invincible, mais de le voir joyeux au milieu de ses épreuves. Il nous le dit par ses paroles, par les armes de la justice, à droite et à gauche. Quelle présence d'esprit, quelle fermeté de sentiment. Les afflictions sont pour lui des armes. Elles ne le renversent pas, elles le protègent, elles le fortifient. Par ce qui est à gauche, il entend les chagrins apparents, car ces sortes de peines nous méritent aussi une récompense. Pourquoi leur donne-t-il ce nom ? C'est pour se conformer à l'opinion du vulgaire, ou bien parce que Dieu nous a ordonné de prier pour que nous n'entrions pas en tentation. Par la gloire et l'ignominie, par l'infamie et la bonne renommée. Que dites-vous ? Quel mérite y a-t-il donc à être glorifié ? Un très grand mérite, reprend l'apôtre. Et comment donc ? C'est une grande chose, assurément, que de supporter l'ignominie. Mais vivre entouré de gloire, n'est-il pas besoin pour cela d'une âme énergique ? Oui, il faut beaucoup d'énergie pour ne pas se laisser accabler par la gloire. Et c'est pourquoi l'apôtre se glorifie de sa gloire comme de son ignominie, car l'une et l'autre sont pour lui une occasion de mérite. Mais comment la gloire peut-elle être une arme de justice ? C'est qu'un grand nombre conçoivent des sentiments de piété quand ils voient leur maître comblé d'honneur. Ces honneurs sont une preuve de leurs bonnes œuvres et Dieu se trouve par là glorifié. C'était aussi le dessein de Dieu d'ouvrir la porte à la prédication de l'Évangile par des moyens opposés. Voyez en effet, Paul était-il chargé de chaînes ? Cette captivité tournée au profit de l'Évangile. Ces chaînes que je porte contribuent au progrès de l'Évangile. Plusieurs de mes frères, pleins de confiance dans mes liens, osent maintenant annoncer la parole de Dieu sans aucune crainte. Était-il entouré d'honneur ? Cette circonstance donnait encore aux fidèles une nouvelle assurance. Par l'infamie et la bonne renommée, ce n'était pas seulement les afflictions spirituelles corporelles qu'il endurait avec patience, ce n'était pas seulement les maux qu'il a énumérés, mais aussi ces douleurs qui ne se font sentir qu'à l'âme et qui causent d'ordinaire des troubles qui ne sont pas médiocres. Comme séducteur et comme véridique, ces paroles expriment la même pensée que celle-ci, par l'infamie et la bonne renommée. Comme ceux qui sont inconnus et comme ceux qui sont connus est la même chose que par la gloire et l'ignominie. Ils étaient connus de quelques-uns et en étaient respectés. D'autres ne dédaignaient pas même les connaître. Comme mourant, et voici que nous vivons, verset 9. Comme destinés et condamnés à mourir, ce qui était aussi une ignominie. Le dessein de l'apôtre était de montrer la puissance de Dieu et la patience des apôtres. Les persécuteurs n'ont rien négligé pour nous donner la mort et ils croient avoir réussi. Mais Dieu nous a tirés du danger que nous courions. Pour expliquer ensuite pourquoi Dieu permet ces souffrances, il ajoute « comme châtié, mais non jusqu'à être tué ». Ainsi donc, les afflictions offrent de grands avantages, même avant la récompense, et les ennemis deviennent utiles, même malgré eux. Comme si nous étions tristes, et en réalité, nous sommes dans la joie, verset 10. Les païens nous croient plongés dans la tristesse, mais peu nous importe leur imagination. Notre âme goûte une joie délicieuse. Remarquez que saint Paul ne dit pas seulement « nous sommes dans la joie », mais il ajoute « toujours ». « Nous sommes toujours dans la joie », dit-il. Y a-t-il rien de comparable à cette vie où les périls mêmes ne font que redoubler la joie, comme pauvres et nous enrichissons un grand nombre d'hommes ? Selon plusieurs, il s'agirait ici des richesses spirituelles. Pour moi, je crois qu'il est question même des richesses temporelles. Car ces richesses mêmes leur arrivaient en abondance. Toutes les maisons, par une sorte de prodige, leur étaient ouvertes. Et ce qu'il dit ensuite ne le prouve-t-il pas ? Comme n'ayant rien et nous possédons tout. Quelles étaient donc ces richesses que possédait l'apôtre quand il disait « comme n'ayant rien et nous possédons tout » ? C'était à la fois les richesses temporelles et les richesses spirituelles. Cet homme que les cités recevaient comme un ange auquel les fidèles eussent donné leurs yeux, pour qui ils étaient tout disposés à sacrifier leur vie, ne possédait-il pas tous leurs biens ? S'agit-il des richesses spirituelles ? Il n'en est point qu'il ne possède. Admis dans l'intimité du roi des cieux, il était le confident de ses secrets. Pouvait-il donc ne point surpasser tous les autres en richesses surnaturelles ? Pouvait-il ne point les posséder toutes ? Autrement, les démons ne lui eussent point si facilement cédé. Il n'aurait pu mettre en fuite les douleurs et les maladies. Nous aussi, quand nous souffrons pour le Christ, montrons-nous non seulement courageux mais pleins de joie. Si nous jeûnons, tressaillons comme si le jeûne était un plaisir. Si l'on nous outrage, formons des cœurs comme si l'on nous comblait d'éloges. Si nous dépensons nos richesses, croyons que nous en amassons de nouvelles. Si vous n'êtes dans cette disposition, vous ne donnerez pas facilement. Voulez-vous donc faire des largesses ? Ne considérez pas seulement la dépense que vous faites, songez au gain qui vous en revient, que ce soit là votre première pensée. Ce n'est pas seulement pour l'aumône, mais pour toute espèce de vertu, qu'il faut envisager non point l'âpreté des fatigues, mais la suavité des récompenses, qu'il faut se mettre sous les yeux Jésus-Christ pour qui nous combattons. Ainsi, vous engagerez la lutte avec ardeur et votre vie se passera tout entière dans la joie. Rien ne donne plus de plaisir qu'une bonne conscience. Paul, malgré tant d'afflictions, se réjouissait, tressaillait d'allégresse. Voilà, chers amis auditeurs, cette page concernant donc le ministère des apôtres, ce commentaire cursif du chapitre 6 de la deuxième aux Corinthiens, précédé par la mention donc du temps favorable, hein, le kairos, le temps opportun pour la réconciliation. C'est donc une page concernant le ministère de l'apôtre, de Paul en particulier, mais des autres apôtres aussi. Une dernière pensée. Ne considérez pas seulement la dépense que vous faites, songez au gain qui vous en revient. Que ce soit là votre première pensée, disait saint Jean Chrysostome. C'est vrai que quand on a un trésor, que l'on le dépense, il ne nous reste rien. Si c'est de l'argent qu'on distribue aux pauvres, il ne nous restera rien. Mais quand il s'agit de la foi, quand il s'agit de l'espérance et de l'amour, plus on donne et plus on reçoit. Et donc cela crée un enrichissement. D'où cette pensée de saint Jean Chrysostome qui est très vraie. Voilà, nous refermons notre émission pour cette semaine. À bientôt pour poursuivre dans la seconde aux Corinthiens, toujours chapitre 6 et chapitre 7. Au revoir.